Nous sommes à notre magnifique chronique juridique avec notaire Marie-Josée Saint-Laurent. Bonjour Marie-Josée.
Bonjour.
Marie-Josée, je veux attaquer tout de suite parce que j'ai un exemple ou enfin un cas type à te soumettre. Et l'exemple est assez long, mais les gens vont comprendre où on veut aller avec ça. Les enfants de Mme Untel, ils ont 35, 37 et 41 ans, constatent que la dame, veuve depuis une dizaine d'années, est assidûment courtisée par un homme dont ils doutent de l'honnêteté. Rassure-toi, c'est pas un courrier du cœur. À bien observer le comportement de Mme Untel, ses enfants réalisent, premièrement, qu'elle est en train de vider son compte en banque au profit de son nouvel ami, et deuxièmement, que les décisions sont de plus en plus bizarres. Ils en viennent rapidement à ne plus reconnaître leur mère et songent à un mandat d'inaptitude pour sa propre protection. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Bon, ça, c'est une très, très, très belle question.
Large, hein?
Oui, mais c'est bon.
Oui.
Parce que avant de voir à lui faire signer un mandat en cas d'inaptitude,
mm-hmm.
bien, son attitude ne veut pas nécessairement dire qu'elle est inapte.
OK.
Et ses enfants ne peuvent pas dire « Maman, t'es inapte, là, on va t'arranger quelque chose. »
C'est pas un examen.
C'est pas comme ça que ça fonctionne.
OK.
De toute façon, si elle était devenue inapte,
oui.
Bien, il est trop tard pour y faire un mandat d'inaptitude.
Ah, bien, voyez-vous.
Okay? Ben oui. Donc, premièrement, il faut se poser la question, est-ce que cette dame-là est simplement influencée par l'amour
mm-hmm.
ou si elle est vraiment inapte ou inapte totalement ou partiellement?
Ouais, comment on fait, là?
Ben, à ce moment-là, il faut aller voir le médecin. Donc, c'est le médecin qui doit produire une évaluation médicale. Un travailleur ou une travailleuse sociale va aussi produire un document qui s'appelle une évaluation psychosociale.
Mmh.
Si ces deux documents-là révèlent que la dame, elle est inapte
mmh.
totalement,
mmh.
à ce moment-là, on regarde, là, on va voir un notaire, on fait une recherche au registre des mandats de la Chambre des notaires du Québec pour voir si elle en avait déjà fait un mandat.
Mmh.
Ensuite, on pose des questions. Si on a la réponse qu'il n'y a aucun mandat notarié que la dame a fait chez un notaire, on pose des questions aux gens parce qu'un mandat peut aussi être fait sous forme de formulaire,
mmh.
contrairement au testament.
Ouais.
Parce que le testament, le notarié n'a pas besoin d'être vérifié, mais le okay. mandat, qu'il soit notarié ou pas, il doit être homologué par la Cour.
Mmh.
Donc, il y a beaucoup de gens qui font des mandats sous formulaire, mais qui sont pas utiles dans tous les cas.
Okay.
Donc, je fais une parenthèse.
Oui, oui,
ceux qui ont un compte en banque, là, qui ont juste ça, là, c'est correct, un mandat sous forme de formulaire vendu en librairie. Ceux qui ont plein de biens comme des maisons et tout ça, c'est pas nécessairement la bonne idée parce que les pouvoirs ne sont pas tous là.
Ah.
Donc si les enfants fouillent dans ces affaires et ils ne trouvent pas de mandat sous forme de formulaire, ah ben là, on doit faire une procédure judiciaire qui s'appelle l'ouverture de régime de protection
oh.
qui invitera, donc c'est le juge qui convoque tous les enfants et la famille, et parmi ces gens-là, il y aura une personne qui sera nommée curateur pour s'occuper de cette dame-là.
OK. Donc, si on obtient, comme par exemple, et le document du médecin et le document du travailleur social... Et là, est-ce qu'il faut que la Cour intervienne là-dedans?
Oui, oui. Le notaire prépare une requête.
Oui.
Donc, le notaire dépose au juge la requête, la recherche de mandat, donc qui démontre qu'il n'y en a pas ou qu'il y en a un.
Okay.
S'il y en a un, on dépose le mandat. S'il
n'y
en a pas, on n'en dépose pas. Et
okay.
on dépose les deux évaluations. Donc, le juge, lui, reçoit ça. Donc, tout dépendant, s'il y a un mandat, il homologue le mandat. S'il n'y en a pas, il va enclencher le processus d'ouverture de régime de protection.
Ouais.
Et là, c'est là qu'il y a une convocation de la famille. Mais je veux revenir aussi sur cette attitude-là.
Oui.
C'est pas évident. Moi, j'en ai vu des gens venir à mon bureau en me disant exactement ça. Ma mère ou mon père est viré sur le top.
Ouais.
Et c'est pas simple. Dans la vraie vie, tant que la personne n'est pas déclarée inapte, elle est considérée apte.
OK.
Donc, c'est pas évident pour la famille. Puis le seul conseil, que là, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Bien, surveillez-la. Suivez-la.
Mm.
Et on peut pas fermer un compte en banque d'une personne qui est encore apte. Donc, on peut pas prendre les décisions à sa place, à moins qu'on ait une procuration. Ça, c'est une autre histoire.
Mm.
Mais chaque cas est particulier. Mais moi, je peux te dire que la personne qui arrive dans mon bureau puis qui vit cette situation-là,
ouais,
là, ils sont très, très, très démunis parce qu'ils voient ça, ils voient que la personne est complètement ailleurs, sur
ouais.
une autre planète.
Ouais.
mais puis qu'il y a d'autres mondes à côté qui en profitent de ces argents-là. Donc, c'est pas simple. C'est des situations qui sont pas très simples.
Oui, et moi, je vais juste aller encore un petit peu plus loin. Oui. Je suis bien curieux. Hein? mais suppose que effectivement on arrive à toutes ces choses-là. Donc, un mandat... C'est quoi, ça, ce mandat-là? Qu'est-ce qui arrive avec les biens de cette madame-là puis la gestion de ça, là?
Mais en fait, le document de mandat, c'est un document dans lequel la personne décide elle-même qui va s'occuper d'elle et de ses biens, si elle devient inapte.
Okay.
Donc, du moment où le mandataire est en fonction, donc s'il y avait un mandat en cas d'inaptitude et que le jugement d'homologation est rendu, le mandat est en vigueur, le mandataire est en fonction.
Okay.
Ou si on n'a pas de mandat, à ce moment-là, le curateur sera en fonction aussi dès le dépôt du jugement.
Ah oui?
Donc, le curateur ou le mandataire, du moment où cette personne-là, elle est nommée, c'est elle qui a en main les biens. Donc, elle doit faire un inventaire des biens et elle doit gérer ça. On dit en bon père de famille là, dans le code civil. Donc, il y a tout un cadre à suivre dans le code civil pour le curateur et dans le mandat pour le mandataire. Et donc, oui, alors voilà, c'est la gestion et des biens et de la personne, parce que quand on parle de la personne, c'est d'aller voir le médecin,
c'est de
consulter le dossier médical, dire oui ou non à des traitements recommandés par le médecin. Ça va jusqu'au débranchement. La morphine en quantité industrielle, si la personne souffre beaucoup.
Ouais.
Et donc, on dit au médecin, donne-y la morphine, ça presse, même si ça l'abrège sa vie. Donc ça, c'est toutes les décisions que le mandataire ou le curateur... Ouais. En fait, le curateur, ça, c'est une autre histoire, ça, c'est un petit peu plus compliqué.
Oui.
Mais le mandataire, il a les pouvoirs dans le mandat pour décider de tout ça. Donc, voilà.
Et ce curateur-là, Marie-Josée, c'est absolument pas jamais le notaire, là, le curateur.
Non, pas du tout.
Le curateur, c'est...
C'est une personne...
C'est une personne... Nommé
par la famille, donc parce qu'il n'y a pas de mandat. Mm-hmm. Sinon, le mandataire, c'est vraiment la personne inapte qui l'avait déjà nommé.
Ouais.
Donc.
Oui, parce qu'il y en a que. Je sais qu'il y en a. Pertinemment, il y en a qui pensent que c'est le notaire qui gère.
Ah, oh, non, pas du tout.
Le notaire ne gère pas, lui.
Non, le notaire prépare le terrain pour la personne qui va gérer.
Et il fait les choses légales.
Exact.
OK, on passe à une autre petite question. Pourrait-on voir, dans le cas précédent, de Mme Untel, là, ou dans tout autre cas, un mandat d'inaptitude existant être annulé par suite d'une amélioration importante de la santé de la personne. Autrement dit, est-ce que c'est ta vie, ça, cette fameuse...
Ben, non, effectivement. Moi, je ne l'ai jamais vu encore. Ça fait 21 ans que je suis notaire, mais je n'ai pas vu ça encore. Mais oui, ça pourrait arriver, tout dépendant des circonstances dans lesquelles la personne elle est devenue inapte.
Mm-hmm.
Donc, si la personne est devenue inapte par un accident et qu'elle est dans un coma profond, puis qu'elle se réveille au bout de 20 ans...
Oui, on a déjà vu 17 ans, là, tellement longtemps.
Bon, ben voilà. Ben, à ce moment-là, on retourne au juge et on renverse le processus.
Okay.
Donc, il faut redemander une évaluation médicale et une évaluation psychosociale pour reprouver au juge que maintenant, la personne elle est redevenue apte à gérer ses affaires. Et à ce moment-là, le mandataire, il va rendre compte de son administration à la personne inapte. Il va lui montrer tout ce qu'elle a fait durant ces années et pourquoi il reste X dollars dans son compte en banque, puis pourquoi il ne reste plus de maison, puis pourquoi il ne reste plus de voiture, et ainsi de suite.
Ouais.
Et à ce moment-là, la personne redevenue apte reprend son patrimoine et elle continue à vivre comme elle le faisait avant.
Bref, on refait le cheminement, mais pour prouver le contraire de ce qu'on voulait. D'accord.
Exactement.
On va changer de sphère ou de domaine, là, puis on va revenir à d'autres documents notariés. C'est parce que, en quelque part, lors de la dernière émission des Rendez-vous à Mossois, le directeur général de la ville d'Amos, M. Guinolet, a parlé des servitudes. Et pour te citer le code très précisément, il parlait de l'évêché d'Amos.
OK.
Où il y avait des cas de servitude. Et lui, il a précisé, il a spécifié, « J'aime bien prendre la forme de document notarié. J'aime bien que ça prenne la forme d'un document notarié. » Ben d'abord, il faut que tu nous dises, c'est quoi ça, ces servitudes-là? Puis c'est pourquoi? Et ça revient au notaire, ça aussi?
Oui. Bien, écoute, la plupart du temps, les servitudes sont notariées parce que c'est notre job de faire ça.
Oui.
Et le registre foncier, parce qu'un acte de servitude, il faut que ça soit publié au registre foncier.
Oui.
Donc, il faut connaître les règles de publication du registre. Il y a Hydro-Québec à l'époque qui faisait leur propre acte de servitude sous sein privé. Maintenant, c'est tout des notaires qui font ça. Donc, on n'en voit plus de servitude faite sous sein privé, donc faite non notarié.
Mais ça avait-tu, excuse-moi, mais
ça avait
une valeur?
Oui, absolument. Oui? Absolument, okay. Oui. Signer devant témoin, tout ça, ça avait... c'est sûr que le processus est un petit peu plus long pour au niveau des signatures, puis tout ça, puis ça prend des témoins assermentés, tout ça.
Oui, oui.
Mais ça se fait.
Bon.
Mais c'est quoi une servitude? Une servitude, c'est un droit, un démembrement du droit de propriété. Donc, je m'explique. En ville, ici, il y a des servitudes de passage. Bon, nécessairement, si on veut de l'électricité, le téléphone, le câble de télé, bien, il faut laisser passer ces gens-là pour venir mettre des poteaux, pour mettre des fils dedans et que ça soit branché à notre maison.
OK.
Donc, il y a un droit de passage et d'utilisation, donc, d'une lisière.
Qui va à cette entreprise-là qui va passer des câbles.
Oui, en fait, c'est toutes les compagnies d'utilité publique qu'on dit, là. Donc, ça, c'est au départ. Admettons qu'il y a un nouveau domaine, un nouveau développement immobilier qui est créé, bien souvent, c'est là, le promoteur va demander à Télébec, Hydro-Québec, d'installer la ligne.
Oui.
Et cette servitude-là est là en faveur de ces gens-là qui doivent exploiter les services publics. Cette servitude-là, d'habitude, elle est de 5 à 6 pieds de large, par toute par toute la largeur du lot.
OK.
Donc, c'est pour permettre à Télébec, Hydro-Québec et ainsi de suite de passer.
Mm-hmm.
Parce que souvent, le propriétaire en arrière a aussi ce 5 pieds-là qui fait 10 pieds. Mm. Donc, un 10 roues peut passer facilement en arrière sur une lisière de 10 pieds.
OK.
Ce droit-là, ça veut dire, lorsqu'il est notarié, publié au registre foncier, nous, comme notaire, quand on fait une vente de maison, on se doit de dire au nouvel acquéreur, il y a une servitude de passage. Vous devez savoir qu'il y a une servitude de passage à l'arrière de votre propriété.
Et elle reste là.
Et elle reste là. Ça, c'est ta vie, là.
OK.
Ça, c'est éternel.
OK.
OK? La personne qui achète cette propriété-là doit le savoir parce que dans cette servitude-là, on ne peut pas mettre à demeure un garage, une remise, un jardin, une clôture, une balançoire, une corde à linge, n'importe quoi. On ne peut pas rien mettre là parce que si Hydro-Québec, Télébec et ainsi de suite nous demandent de laisser libre, parce que la servitude, on s'empêche. Hein, quand on dit que c'est un démembrement du droit de propriété, on s'enlève ce droit-là d'utiliser à fond, à plein, ce bout de terrain-là. On peut aller marcher dessus, bien sûr, mais on ne peut pas laisser rien à demeure parce que les travailleurs peuvent exiger qu'on déplace et ça sera à nos frais.
Okay.
Parce que la servitude, elle est là, elle est publique et l'acheteur doit, il est présumé connaître l'existence. Puis nous, bien évidemment, on leur dit ça.
Oui.
Je veux juste faire un parallèle avec une obligation morale parce qu'il y a dans des contrats où ce n'est pas des servitudes en tant que telles qui sont créées. Hmm. C'est juste une obligation d'accorder si jamais la demande en est faite. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est juste une obligation morale de dire oui, si Hydro-Québec, Télébec veulent passer chez nous,
mais
là, on signera les contrats notariés et à ce moment-là, on fera les choses.
OK.
Ça, c'est autre chose.
Ouais.
Pour que ça soit vraiment une servitude en bonne et due forme, il faut que ça soit publié au registre foncier et que ça soit très clair que c'est une servitude. On appelle ça une servitude réelle et perpétuelle.
Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment publié au registre et c'est là ad vitam aeternam. Donc, et si on met quelque chose dans cette lisière-là, bien, c'est à nos risques et périls parce que ça se peut qu'on soit qu'on nous exige d'enlever ce qu'on a mis.
Et comme dirait Colombo, mais ça pose un tas de questions. Comme par exemple, est-ce que ça peut exister entre... Parce que tu me parles beaucoup pas de grosses entreprises, mais d'entreprises de services.
Oui.
Est-ce que ça pourrait exister entre des individus?
Oui, une servitude de vue.
De vue?
Oui, le Code civil dit que c'est quand une maison qui a une fenêtre dans un mur qui est à moins de 6 pieds de la ligne du voisin, on doit demander la permission au voisin de garder cette fenêtre-là parce qu'elle est illégale. Ça crée une vue illégale.
Ah!
Donc, c'est un contrat de terrain à terrain. C'est pas de voisin à voisin.
Non.
C'est de terrain à terrain. Donc, le terrain où il y a la vue illégale demande à l'autre terrain de lui céder une servitude de vue qui permet, tant que le bâtiment est là, de garder cette fenêtre-là en place.
OK.
Donc, ça ne permet pas d'en créer d'autres fenêtres.
Non.
Et voilà. Donc, c'est un document qui est aussi notarié, qui est publié au registre foncier. Et les acheteurs, les propriétaires peuvent changer. Cette servitude-là va toujours rester parce qu'elle est réelle et perpétuelle encore.
OK, elle est encore là, elle est tout le temps là.
Elle est toujours là. Donc, tant que le bâtiment est là,
cette
fenêtre-là va rester là. Okay. Elle peut rester là.
OK.
Et le voisin ne peut pas rien dire.
OK. Il nous reste un tout petit peu de temps. Puis, je ne sais pas si ça va te rappeler quelque chose, mais à un moment donné, il y avait une publicité de télévision, je pense que c'était dans la région surtout, où on nous disait que le ministère de je sais pas quoi, de la voirie ou quelque chose de même, avait un droit de... Eux autres, ça se peut-tu empiètement ou quelque chose comme ça? Ou
ben,
ils ont un droit sur ton terrain,
ben,
là?
Oui, c'est pas une servitude, ça. C'est parce que dans la vie, là, dans la vraie vie, si les gens regardent leur certificat de localisation, leur lot, là, la limite de leur lot, la limite avant du lot, n'arrive pas à jusqu'à la rue.
Ah! Mais
on l'entretient tout le temps, parce que c'est comme ça.
Ah,
on l'entretient tout le temps, là, parce que la ville ne mettra pas de l'asphalte jusqu'à... mettons les, parce que sinon, les rues, on a déjà des rues larges à Amos.
Oui, oui, oui.
Mais il y a comme 5-6 pieds de plus qui est la propriété de la ville.
Okay.
Mais nous, on aime ça que notre propriété ait du bon sens. Donc, on l'entretient, on met de la pelouse, on met de l'asphalte, on entretient jusqu'au trottoir. Mais...
C'est pas vrai.
Regardez juste la piste cyclable sur la 4e avenue.
Oui.
Donc, ça, c'est un peu la lisière. S'il n'y avait pas de piste cyclable, les voisins, les emplacitaires, les propriétaires, ils l'entretiendraient jusqu'au trottoir.
Donc,
ça, c'est un bon exemple de dire, ben oui, cette lisière-là, c'est la propriété de la ville ou du ministère de transport sur le bord des routes. Donc voilà, alors ça, c'est pas une servitude, c'est qu'ils sont propriétaires de cette lisière-là.
Ah.
Et c'est là que le ministère disait, ben nous, on est propriétaires, on a le droit d'aller là.
Oui.
Voilà.
Ah bon, ah, c'est intéressant, ça n'a pas de bon sens. On en apprend avec Marie-Josée Saint-Laurent toutes les semaines. Merci beaucoup, Marie-Josée, on se revoit la semaine prochaine.
Oui.
Bye-bye.
Bye-bye.